Bonjour à tous, bienvenue dans cette rencontre intitulée Quel métier pour les ingénieurs de demain? Une rencontre qui est donc proposée par la Bibliothèque publique d'information. Alors, cette rencontre a lieu dans un cadre plus global qui est le cycle Vivre durable proposé par le service Savoir pratique de la bibliothèque et qui vise à interroger plusieurs thématiques autour du changement climatique et à proposer des pistes de réflexion et d'action pour une transition écologique, solidaire et équitable. Donc ce soir, nous allons nous intéresser aux ingénieurs de demain et avant de passer la parole à Aurélie Luneau qui va modérer cette rencontre, je voudrais signaler s'il y a des lecteurs de la BPI qui nous écoutent, qu'ils peuvent retrouver en ce moment dans la bibliothèque une valorisation autour de cette thématique, donc avec plusieurs ouvrages proposés. Et j'attire également votre attention sur le fait que la bibliothèque propose une ressource des techniques de l'ingénieur. Donc c'est une base de données qui regroupe des articles, des fiches pratiques, beaucoup de choses à ce sujet que vous pouvez trouver dans la bibliothèque. Je vous invite également à poser toutes vos questions sur les commentaires Facebook en dessous du live. Elles seront prises en compte au fil de la rencontre. Je vais donc laisser la parole à Aurélie. Très bonne rencontre.
Merci Chloé pour ce cycle déjà de conférences hein, qui continue à vivre et à enrichir la collection à retrouver sur le site de la BPI. Et puis j'en profite aussi pour saluer notre technicien Renaud Gisse qui assure cette diffusion en live sous forme numérique. Et donc bonsoir à tous. Merci d'être avec nous ce soir en direct et derrière vos écrans pour cette conférence donc proposée sur le thème « Quel métier demain pour les ingénieurs et les diplômés des grandes écoles ?» C'est vrai que depuis le manifeste des étudiants et les mouvements de jeunes face au changement climatique, où en est-on de l'évolution de l'enseignement et puis des choix aussi de vie professionnelle? On va en discuter ce soir. Donc nous sommes ensemble jusqu'à 20h, 20h30, et vous pouvez adresser vos questions qui seront relayées, bien sûr, et que je pourrai poser à nos invités. Clémence Voreux, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes coordinatrice enseignement supérieur dans l'association The Shift Project. Alors, je vous propose tout de suite peut-être de vous présenter, puis de présenter cette association précisément.
Alors, The Shift Project, c'est donc un think tank qui a le statut d'association d'intérêt général loi 1900. Et c'est un think tank qui cherche à agir en faveur de la transition vers une économie bas carbone. On a été créé en 2010 par Jean-Marc Jancovici, qui est un expert des questions énergie-climat et qui est membre du Haut Conseil pour le climat. Et donc notre vocation, c'est d'éclairer et d'influencer le débat sur la transition énergétique. On se présente comme ça, donc éclairer, produire des rapports, des études et influencer, c'est la partie lobby qu'on assume tout à fait et qui vise à porter nos propositions auprès des décideurs concernés. Et donc on s'intéresse à beaucoup de sujets liés à la transition énergétique. Des sujets de préférence dont il nous semble qu'ils ne sont pas assez traités dans le cadre du débat public sur ces questions-là. Et donc, on va chercher à alimenter ces réflexions. Voilà. Et donc, moi, je travaille depuis 4 ans et demi maintenant pour ce think tank et je coordonne tous les projets qu'on a sur l'enseignement supérieur, la recherche. Voilà, en gros.
Et donc,
Et
vous
donc, un
avez
projet
produit
notamment
un
sur.
rapport, hein, je crois qu'il y a eu un rapport, c'est ça, mobiliser l'enseignement supérieur pour le climat, avec beaucoup d'entretiens. Vous pouvez nous en parler un peu?
Oui, alors on a commencé en fait à travailler sur l'enseignement supérieur en 2018, fin 2017, début 2018, parce qu'on avait un certain nombre d'experts de notre comité d'experts au Shift qui sont enseignants-chercheurs, notamment des grandes écoles et notamment des grandes écoles d'ingénieurs, et qui faisaient le constat très alarmant que globalement les étudiants dont ils avaient la charge sortaient d'école en n'ayant franchement pas compris grand-chose de l'effet de serre, du changement climatique et de la transition énergétique que ces enjeux-là impliquaient de mener. Ils trouvaient ça assez alarmant parce que c'est des gens qui allaient se retrouver dans des fonctions avec de grandes responsabilités. Et donc, voilà, y avait un gros sujet selon eux, et donc ils nous ont proposé que le Shift s'intéresse à ce sujet-là. Donc, on a cherché à faire un état des lieux à ce moment-là, de la manière simplement plus largement dont les questions de transition écologique étaient enseignées dans le supérieur, toutes filières confondues. Donc c'est un rapport qui a permis globalement de dresser un constat de carence, quelle que soit la filière, mais avec quand même des grosses différences selon les filières, école de commerce, école d'ingénieur, université, et autres écoles aussi, école de fonctionnaires, etc. Mais qui globalement montrait que pour se voir enseigner ces questions de transition écologique, si on veut généraliser, il faut vraiment choisir des options, des filières spécialisées, mais que globalement, on n'est plutôt pas formé aujourd'hui dans l'enseignement supérieur à ces sujets. Voilà, donc c'est un premier travail qui a permis un peu de jeter le pavé dans la mare et qui a fait écho à effectivement toutes les manifestations qui ont déjà été mentionnées sur les mobilisations des jeunes autour des marches pour le climat, le manifeste pour un réveil écologique, voilà, toutes ces actions qui justement étaient menées par des jeunes qui cherchent leur place dans cette transition écologique. Voilà, et donc c'est suite à ce premier travail qu'on est en train d'en mener aujourd'hui un deuxième, vraiment plus spécifiquement sur les ingénieurs, pour voir comment est-ce qu'on peut mieux former les ingénieurs à occuper une fonction qui soit en accord avec le projet national et international de transition écologique.
Philippe Drobinski, bonsoir.
Bonsoir.
Donc, vous êtes climatologue et directeur du laboratoire de météorologie dynamique à l'Institut Pierre-Simon Laplace. Vous êtes directeur de recherche au CNRS et professeur à Polytechnique. Et de votre côté, voilà, vous allez aussi nous montrer dans votre présentation depuis combien de temps vous travaillez sur ce sujet. Et ça fait quand même déjà quelques années. On peut préciser que vous coordonnez l'école universitaire de recherche Energy for Climate. Peut-être que vous pouvez commencer par nous dire en quoi consiste justement cette école et puis aller plus avant sur vos recherches tout simplement et votre enseignement.
Alors, d'abord, je vais déjà juste commencer par dire effectivement, j'enseigne depuis maintenant plus de 15 ans sur la thématique changement climatique et transition énergétique. Et à la fois en formation initiale, mais aussi en formation continue. Donc ça, c'est important, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une continuité entre les jeunes qu'on forme à l'heure actuelle qui seront en situation de prendre des décisions dans 20 ans, et puis ceux qui sont en situation de les prendre maintenant. Donc, moi, je suis climatologue, j'enseigne plutôt les sciences du climat, le lien avec les questions d'énergie. Et si on traite la question de la transition énergétique dans un contexte de changement climatique, il est vrai qu'on est face à un problème qui est systémique, qui est complexe, et que les étudiants doivent maintenant, je dirais de plus en plus, être formés à aborder des questions de ce type-là, donc des problèmes de transition, donc des problèmes de conduite du changement, des problèmes de complexité, d'interdisciplinarité. Pour traiter la question de la transition énergétique, c'est pas qu'un problème technologique, c'est un problème de faisabilité socio-technique. Donc on est obligé, je dirais, de plus en plus de former nos étudiants avec une palette de connaissances, encore plus de connaissances qui est le plus large possible, pour que les différents enjeux, les différents verrous des questions, par exemple, de transition énergétique puissent être abordés, je dirais, de l'ensemble des facettes auxquelles ces questions sont confrontées. Et donc, dans ce cadre-là, j'ai fondé le Centre interdisciplinaire Energy for Climate, qui rassemble une trentaine de laboratoires de l'Institut Polytechnique de Paris et d'École des Ponts, une palette extrêmement large d'expertise, aussi bien en enseignement et en recherche, pour pouvoir justement à la fois former sur ces questions multidisciplinaires liées à la transition énergétique, et bien évidemment conduire des recherches en interdisciplinarité pour, accélérer notre compréhension et donc notre action sur les questions d'atténuation climatique dans le secteur de l'énergie. Alors après, ouais, allez-y.
Allez-y. Oui, non, et donc proposer des formations dont on pourra effectivement parler plus avant dans le déroulé de cette conférence qui nous réunit, parce qu'on va bien sûr se préoccuper de à la fois l'état des lieux, c'est-à-dire où en est-on des attentes et des besoins exprimés par ces étudiants. On peut en parler, hein, c'était il y a 2 ans quand même le manifeste des étudiants intitulé « Pour un réveil écologique ». Lancé à la rentrée universitaire 2018, de mémoire, c'était par des étudiants de Polytechnique, je crois qu'il y avait aussi HEC, l'ENS, l'ENSTA, donc l'École nationale supérieure des techniques avancées, j'en oublie hein, certainement, Philippe Drobinski, vous pourrez nous dire, puisque je crois que vous étiez aussi au cœur de ce qui se passait avec vos étudiants. Et là, on a vraiment senti cette prise de conscience et cette sensibilité d'une partie des étudiants à l'urgence climatique, et on a perçu aussi ce malaise et la quête de sens. 2 ans après, que peut-on en dire, Philippe Drobinski? Et ensuite, Clémence Voureux pourra nous donner aussi son sentiment.
Alors, moi, je ne vais pas commencer par dire ce qui se passe 2 ans après. Je vais déjà vous dire ce qui s'est passé en 2018. Parce qu'en 2018, effectivement, les étudiants de l'École Polytechnique actifs au sein de l'association développement durable de l'école sont venus me voir donc, au moment de la sortie du manifeste pour me demander justement un petit peu pour discuter sur en particulier donc les actions qui leur semblaient importantes d'exprimer donc dans le manifeste, en particulier sur les questions d'une part de formation et d'autre part d'emploi et de position par rapport aux employeurs sur les questions de développement durable. Donc d'abord, la première chose que je tiens à dire, c'est que dès le départ, pour moi, je suis un ardent défenseur du manifeste et je pense que le fait que la jeunesse se mobilise est absolument fondamental. D'abord parce que je dirais qu'elle est concernée en premier lieu par les questions de changement climatique. Je dirais les effets du changement climatique vont se faire ressentir de plus en plus fort et que, pour caricaturer un petit peu, peut-être que moi je mourrais 5 ans avant dans mon EHPAD du fait d'une canicule extrême, mais je dirais que la vie de ces étudiants-là sera beaucoup plus compliquée que celle que moi j'aurais vécue quand même. Donc il est très important, cette population d'abord, ces étudiants sont légitimes, sont extrêmement légitimes dans le message qu'ils portent. Donc ils ont un message qui est dire nous sommes exposés, peut-être encore plus que vous, un petit peu plus vieux, donc vous avez une responsabilité bien évidemment à connaître que vous nous laissez, et donc il est temps d'agir, et en tout cas il est temps de se mobiliser. Donc ça c'est un premier point, c'est la légitimité de leur discours, ils sont extrêmement légitimes à porter ce débat-là. Ensuite, ce que j'ai trouvé absolument incroyable, c'est leur maturité par rapport à l'analyse du problème. Et donc, dans la formulation d'un certain nombre de questions écrit dans le manifeste, en particulier sur les questions de formation et puis de positionnement par rapport à leur carrière professionnelle. Je pense que, ça on en parlera probablement plus tard, mais la question de leur, je dirais, de la formation, elle se pose de façon très claire. Mon discours, c'est souvent de dire que l'ignorance est un frein à l'action. Donc, des gens non formés, au mieux, ne vont pas agir et au pire, vont mal agir. Donc, on a besoin de diffuser des connaissances pour faciliter l'action dans le contexte du changement climatique. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis 2 ans ? D'abord, il y a cette prise de conscience. Je pense qu'effectivement, Clémence Breu en parlera de par l'analyse qu'ils ont faite au sein du Shift Project sur un ensemble assez large d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche. Moi, je peux vous parler de ce qui s'est passé à l'École Polytechnique. Alors, à l'École Polytechnique, on enseigne le climat depuis longtemps, depuis plus de 20 ans. Donc, parce que mon laboratoire, le laboratoire de météorologie dynamique, est un des laboratoires du centre de recherche de l'école. Donc il y a des enseignements, il y a, je dirais, des ressources pour pouvoir enseigner ces matières-là. Mais je dirais que depuis maintenant une petite dizaine d'années, le panel des formations associées à ces questions environnementales est devenu très, très large, très multidisciplinaire. On a de l'économie pour l'environnement, on a de la biodiversité, etc. Et donc, on forme, en tout cas au niveau spécialisation, que ce soit master ou dernière année du cycle ingénieur, à ces questions, je dirais, assez larges de science et de défis pour l'environnement. Ce qui s'est passé suite au manifeste, c'est que dès 2019, nous avons mis en place des journées de sensibilisation au développement durable pour les élèves dès leur arrivée en première année. Donc c'est un séminaire de 3 jours qui vise justement à leur apporter une sensibilisation sur le côté systémique du problème du changement climatique. Donc ils ont à la fois par des conférences de haut niveau, par des ateliers, ils sont immergés pendant 3 jours sur les questions à la fois de compréhension de ce que c'est que le changement climatique, d'évaluation des impacts du changement climatique et je dirais comment on est capable de répondre, quels sont les outils pour répondre et pour atténuer le changement climatique. Dès 2019, il y avait l'idée de former l'ensemble des étudiants à ces questions de développement durable, quel que soit le parcours au sein de l'école, quelle que soit leur spécialisation. Et donc, cette année, nous mettons en place un certificat donc d'établissement, développement durable, qui va permettre à tous les étudiants de l'école, tous les élèves de l'école, quelle que soit leur spécialisation, quel que soit leur parcours, ceux qui souhaitent se former aux questions de développement durable, pourront suivre un certain nombre de cours et en suivant ce nombre de cours requis, obtiendront donc un certificat en plus de leur, je dirais, de leur spécialité, de leur diplôme.
Quand vous dites « on », Philippe Drobinski, donc ce sont les écoles dans lesquelles vous enseignez, donc là vous parlez de Polytechnique, est-ce qu'il y a d'autres écoles rapidement, hein, que l'on peut lister, ou alors c'est peut-être Clémence Voureux qui pourra répondre à cette question.
Je vais pouvoir juste donner donc l'Institut Pierre-Simon-Laplace, hein, qui est donc dans le laboratoire météorologie dynamique, est un membre, donc qui est le premier institut de recherche sur le climat en France et contribue très très fortement à l'enseignement sur les sciences du climat au niveau de la région Île-de-France. Et ces questions climat-environnement sont enseignées dans tous les gros centres universitaires de la région parisienne, que ce soit sur l'Université Paris-Saclay, l'Institut Polytechnique de Paris, donc PSL avec l'École Normale Supérieure, que ce soit bien sûr Sorbonne Université, etc. Donc je dirais qu'il y a de la formation heureusement dispensée depuis longtemps, hein, c'est pas non plus nouveau. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'on doit dépasser le cadre de la formation au niveau master, donc au niveau de la spécialisation, d'accord, c'est-à-dire là où on s'adresse à une communauté d'élèves et d'étudiants qui sont déjà motivés par ces questions-là, qui viennent rejoindre pour quelque part se projeter dans une carrière qui est directement en lien avec cette thématique. La question maintenant, le défi qui est posé par le manifeste et qu'il s'agit maintenant de relever, et que donc à l'École Polytechnique, à l'Institut Polytechnique de Paris, ce sont des choses qui sont en cours, c'est de former, je dirais, toute une
population la première année.
Plus large, dès la première année, des niveaux licences, donc ces élèves à ces questions de développement durable.
Et donc ça rejoint une question qui a été posée justement, en dehors de la sensibilisation des jeunes à travers l'enseignement, comment nous guider vers des métiers en accord avec nos valeurs une fois que l'on est convaincu de l'urgence climatique. Je suis diplômée depuis un an, force est de constater que très peu d'opportunités sont accessibles aux jeunes dans le milieu de la transition écologique en dehors des grands groupes qui surfent sur la vague du greenwashing plus qu'autre chose. Donc là, ça va être effectivement, c'est une fois qu'on a été formé, comment accéder à des métiers. On va pouvoir répondre à ces questions. Clémence Voureux, il faut peut-être préciser quelque chose, c'est que quand on fait à peu près la liste, ou en tout cas quand on évalue le nombre de ces jeunes qui se manifestent, hein, qui ont pu signer les manifestes, qui descendent dans la rue, on estime qu'ils représentent à peu près 25%. Des jeunes, est-ce qu'on en est toujours là dans les chiffres? Et puis de quelle façon est-ce que vous avez senti peut-être une évolution? Comment est-ce que les directeurs d'école ont pour l'instant peut-être relayé, répondu à une demande au-delà des cours optionnels? C'est-à-dire que le pari aussi, c'est de faire en sorte que les cours deviennent des cours obligatoires, hein, et pas forcément que des cours optionnels, j'imagine.
Oui, je pense qu'effectivement, Philippe Drobinski a bien résumé le problème. C'est qu'on a tendance, et il y a quelques années, l'état de la réflexion, c'était il y a les métiers verts, ou ce qu'on a commencé à appeler les métiers verdissants, donc des métiers qui sont censés devenir verts, et puis il y a les autres. Et donc, ça a donné une réflexion sur la création de formations spécialisées, en fait, des filières dédiées, des options qui peuvent être choisies, qui vont ensuite mener à ces métiers verts. Et sauf qu'en fait, le sujet, il est au-delà de ça, c'est que donc, en fait, quand on parle de transition énergétique, on parle de transformer tout notre modèle économique et notre modèle de société, tout notre modèle de production, mais ça implique aussi des transformations et des réflexions autour du secteur tertiaire, de nos secteurs de services, de tout un tas de sujets qui ne sont pas forcément industriels et qui ne sont pas forcément spécialisés. Donc en fait, ça concerne tout le monde. Et donc ça, c'était pas très bien compris. Donc il y a 2 ans encore, c'était très mal compris. Quand les étudiants ont commencé à faire leur manifeste, on avait discuté. Initialement, ce manifeste, il portait vraiment sur le métier que les étudiants allaient occuper. Donc, c'est effectivement justement ça. C'est comment est-ce qu'on peut, à travers notre emploi, contribuer à la transition. Finalement, en discutant avec eux, ils ont élargi leur réflexion en se disant, c'est pas juste l'emploi, c'est aussi la formation. Et donc, à travers un emploi qui n'a pas forcément à voir directement avec la transition écologique, on a envie de contribuer à la transition écologique. Et là, c'est autrement plus compliqué parce qu'effectivement, on se retrouve dans des filières, dans des sujets, des secteurs où on arrive avec des idées et on nous demande de les ranger dans un tiroir et de continuer à faire comme avant. Et c'est là que ça pose vraiment problème. Donc, nos shifts, on travaille beaucoup avec des entreprises, des grandes entreprises notamment. On leur a pas mal parlé de ça. On a organisé des rencontres entre des membres du COMEX, de grosses entreprises et des étudiants, du manifeste notamment. Et finalement, leur réaction, c'était « Mais pourquoi ils ne veulent pas venir chez nous alors qu'en fait, il faut qu'ils viennent changer le système de l'intérieur ?» Et donc, en fait, ce qu'il a fallu leur expliquer, c'est que en fait, quand on parle de gros groupes de cette taille-là, quand on est jeune, on ne change rien du tout dans ces boîtes-là parce qu'il faut attendre 10, 15, 20 ans pour atteindre un niveau de responsabilité qui permet effectivement de faire une différence. Et que donc, j'ai essayé de leur expliquer qu'en fait, dans 2, 3, 4 ans, ils seront encore en train d'essayer de négocier des jours de travail, des modalités de travail particulières, très pratiques. Mais en fait, ils n'auront aucun poids sur la stratégie de l'entreprise, sur la manière, sur son modèle de production, sur sa chaîne de valeur ou quoi que ce soit. Donc, c'est là qu'il y a un vrai sujet. C'est que du coup, les jeunes, aujourd'hui, cherchent un endroit où ils peuvent, c'est ce que disait Philippe, agir, faire une différence en fait, par leur action. Et donc, en fait, ils ne se retrouvent pas dans les grosses entreprises qui sont une partie assez conséquente, pas majoritaire, mais conséquente du marché du travail, surtout pour les ingénieurs. Et donc là, ils sont face à une crise existentielle de comment est-ce que je peux m'insérer dans l'économie, avoir un métier et en même temps contribuer à la transition. Donc après, il y a les métiers de la transition écologique donc, qui étaient mentionnés dans la citation que vous venez de citer. Et où là, c'est vraiment comment trouver un métier dans la transition écologique. Et pour moi, ça répond partiellement au sujet, qui est effectivement, on peut travailler dans la transition écologique. Il faut savoir que ça paye globalement beaucoup moins bien que dans d'autres, que dans la plupart des filières. C'est un peu moins le cas pour les ingénieurs, mais ça reste le cas. Mais il n'y a pas non plus du boulot pour tout le monde dans ces secteurs spécialisés. Donc, il ne faut pas non plus que tout le monde cherche à travailler dans ce secteur qui reste une niche. Et par contre, il faut surtout arriver à faire transitionner, si on utilise ce mot qui n'est pas très agréable à l'oreille, l'ensemble des secteurs industriels et des secteurs de notre économie. Et donc, c'est plutôt là que réside le challenge. Alors du coup, à la personne qui posait la question, je veux quand même recommander une toute nouvelle plateforme qui a été créée par nos bénévoles, les Shifters, qui s'appelle Shift Your Job, et qui cherche à recenser un certain nombre d'organisations de différents secteurs qui œuvrent en faveur de la transition écologique. Voilà, c'était la petite parenthèse. Mais qui plaît bien. Mais voilà, mais il n'empêche que ça ne résout que partiellement le problème de transformer l'économie dans son ensemble. Ouais. Donc c'est là qu'il faut arriver à faire comprendre, et en fait c'est le gros sujet, en fait, c'est quand on parle de formation, les écoles bougent, mais généralement là où elles ont du mal à bouger, ou en tout cas où elles objectent à l'action, c'est qu'elles nous disent, en fait, nous on voudrait bien faire ce que vous nous demandez, parce que c'est intéressant, mais ça n'apporte rien, voire ça pose problème dans la formation de nos étudiants, parce que les entreprises n'embauchent pas sur ces critères-là. Donc ils ne cherchent pas à avoir des ingénieurs, et puis dans d'autres secteurs aussi globalement, des diplômés, des jeunes cadres qui sont formés à comprendre les enjeux de la transition. Et donc ça, c'est un vrai problème, parce que c'est ça, en fait, l'intérêt premier et l'objectif prioritaire d'une école, et on peut difficilement leur en vouloir, c'est de mettre leur diplômé sur le marché du travail. Et donc, il y a un vrai sujet de faire comprendre au milieu économique et aux entreprises, notamment, mais globalement tous les employeurs, qu'ils ont intérêt à recruter selon ce critère-là. Et donc là, il y a un sujet, c'est que du coup, on demande aux écoles d'anticiper une demande en termes de compétences qui n'existe pas encore ou qui est encore assez peu manifeste. Donc nous, aujourd'hui, au Shift, on travaille avec le groupe INSA, qui a décidé de faire ce pari-là, qui est de dire, en fait, les entreprises vont se réveiller sans doute un peu tard par rapport à ce dont elles ont besoin comme compétences. Et en fait, adapter des formations, ça prend du temps, parce qu'il faut les mettre en débat, il faut faire de la place dans les programmes, il faut former les enseignants, il faut recruter, etc. Et donc, en fait, il faut amorcer cette réflexion bien en amont, parce que les diplômés arrivent plus tard, au bout de 3 ans d'études pour les écoles en 3 ans et 5 ans d'études pour les écoles en 5 ans. Donc, il y a intérêt à anticiper, et malheureusement, le secteur économique, lui, n'est pas dans l'impulsion de ce côté-là.
Est-ce que c'est votre analyse aussi, Philippe Drobinski, si finalement on rebondit sur les propos de Clémence Voreux, on se rend compte que d'un côté, il y a la demande des étudiants, donc très, très fortement quand même, que d'un autre côté, il y a les directeurs d'école qui sont pris entre deux feux, c'est-à-dire à la fois la demande des étudiants et puis d'un autre côté, on imagine les financiers des écoles, puisque ces financiers des écoles sont souvent des grands groupes à, pour certains, fort impact carbone. Et là, les étudiants dénoncent aussi cette situation et ne veulent pas forcément partir justement dans les métiers qui sont proposés, les postes qui sont proposés par ces financiers. Aujourd'hui, c'est un hiatus pour les, ou en tout cas un nœud insoluble pour les directeurs d'école. Comment vous le ressentez, vous, concrètement? Il y a des enjeux quand même pour les écoles dans le choix des partenaires financiers, là.
Moi, je vais être plus provocateur que ça. Je veux dire, ce qu'on a d'abord, c'est un vivier d'étudiants exceptionnels, point barre, quoi. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si les entreprises se retrouvent face à un vivier qui est plus disponible pour eux parce que ces étudiants veulent aller s'engager ailleurs, je crois que le milieu socio-économique qui n'est plus capable d'attirer ses meilleurs ingénieurs, élèves d'écoles de commerce, etc., commerciaux, c'est forcément un risque aussi. Donc, et ils l'expriment. Enfin, moi, j'ai discuté avec des patrons de grands groupes qui expriment leur inquiétude sur le fait de ne plus pouvoir accéder à un vivier d'étudiants brillamment formés parce que cette population-là souhaite mettre au défi le monde socio-économique vis-à-vis de leur engagement sur les questions climatiques. Et le manifeste, c'est ça. Hein. Le manifeste dit « j'ai plus envie d'aller travailler dans ces… Je veux que mon emploi, que ma carrière professionnelle puisse être en adéquation, puisse avoir du sens et être en adéquation avec mon aspiration à un monde meilleur. » Et voilà. Et moi, je pense que ça, c'est un levier exceptionnel qu'ont les étudiants qui arrivent dans les écoles, qui en sortent maintenant. Ils ont un pouvoir dont ils ne méprisent même pas l'impact. C'est que cette volonté de mettre au défi le monde socio-économique vis-à-vis de leur engagement sur les questions climatiques, c'est un levier d'action très très fort. Après, moi, je dirais que pour répondre à ce qu'a dit Clémence, moi, me convient très bien. Enfin, je suis le premier à dire que de toute façon, le climat, c'est pas qu'un problème d'emploi vert, c'est un problème d'emploi partout. On doit transformer notre société de façon globale. Et ça, c'est aussi un autre point qui est important à avoir en tête, c'est-à-dire que les étudiants dans le manifeste disent beaucoup mettre au défi les autres. Je pense que le problème du changement climatique est un problème inclusif. Il n'y a personne qui est en dehors du bateau. Si on voit couler, on coulera tous ensemble, les grands groupes, les États, les individus. Puis si on réussit, on réussira tous ensemble. Donc le problème est inclusif. Donc la question de savoir, d'abord, je pense qu'on doit pouvoir parler à toutes les entreprises et mettre au défi toutes les entreprises. On doit mettre au défi l'État. C'est pas que le monde socio-économique, c'est aussi l'administration publique. Aujourd'hui, dans l'affaire du siècle, l'État a quand même été condamné pour inaction climatique, et ça, c'est un élément important, c'est-à-dire que le défi, ce n'est pas seulement le monde socio-économique, ce n'est pas seulement le monde de l'entreprise privée, et puis c'est aussi nous, enfin, je veux dire, chaque individu doit se mettre au défi aussi de sa propre transition. Donc, le problème est inclusif, la mise au défi, elle est nécessaire, mais il faut s'interroger individuellement sur notre capacité, nous, à agir directement sur notre empreinte carbone, mettre au défi les entreprises sur leur trajectoire de transformation, mais mettre aussi au défi l'administration publique, l'État, sur sa capacité à réguler de telle sorte à accélérer la transition, les transitions, transition énergétique, transition agronomique, transition, enfin voilà, il y a beaucoup de transitions à faire pour pouvoir en tout cas atténuer les effets du changement climatique.
En tout cas, on comprend que ce sont des questions, effectivement, pour ces étudiants, des questions cruciales, parce que d'un côté, l'enseignement supérieur, les grandes écoles ont compris qu'il fallait effectivement offrir cette formation, donc ces cours, cette immersion aussi, pour répondre à leurs attentes et leur donner des clés de compréhension de ce monde en pleine évolution et ébullition. Et d'un autre côté, dans ces écoles, les directeurs ou les présidents d'école prennent conscience que ce monde du travail n'est pas complètement prêt. Malgré tout, petite question, parce que c'est vrai qu'on parle d'une manière générale, on a quand même le sentiment que dans ces grands groupes, il y a des personnes au cœur de ces groupes qui ont une conscience environnementale, mais ce que vous nous dites, et l'un et l'autre, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas la majorité, en tout cas, ça ne peut pas faire basculer la politique de ces grands groupes, c'est ça? Qui veut répondre? Phil Drobinski, oui. Vas-y.
Ouais. Non, vas-y, Clémence.
Vas-y, aucun problème.
Non, en fait, je vais caricaturer là aussi à l'extrême. Le patron des grands groupes, voilà, je fais partie de la génération de ceux qui peuvent être à peu près à ce niveau-là. On a tous des enfants qui vont vivre dans le monde d'après, enfin, voilà, dans le monde de demain, dans le monde d'y être dans 20 ans. Et le monde de demain, si on n'y fait pas attention, une partie de ce monde-là sera même plus habitable par l'homme. Quoi. Enfin, voilà. Donc, je crois que ça, c'est quelque chose qui change énormément la donne. Cette prise de conscience que, pour citer Jean-Marc Jancovici, c'est que la génération future n'est plus la génération future, c'est la génération présente. Et je crois que ça fait une différence assez forte, c'est-à-dire que plus personne ne peut se sentir complètement, à l'abri des questions du changement climatique et ignorer ça. Donc ça, c'est un changement qui est important. C'est-à-dire que le changement climatique est perceptible, les effets à la fois dans l'environnement proche, dans les problématiques, les enjeux politiques, je dirais, de la planète, les crises environnementales qui peuvent aboutir à des conflits, les questions de migration climatique. Donc, on est dans un monde en transformation sous l'effet du changement climatique et je dirais que plus personne n'y échappe. Donc, je ne crois plus que la question soit de savoir exactement, encore une fois, je caricature à l'extrême, de savoir si les gens ont conscience ou pas du changement climatique. La question, c'est la question des connaissances. C'est comment est-ce qu'on agit dans un environnement en évolution, c'est-à-dire qu'il n'est pas stabilisé, ce n'est pas quelque chose sur lequel la trajectoire est prédéfinie, incertain, puisque beaucoup de choses dépendent, on vit dans un monde extrêmement complexe, imbriqué, systémique, donc une action sur un élément du système peut engendrer une réaction dans un sens positif ou dans un sens négatif. Donc on voit qu'on est face à un système qu'on ne maîtrise pas bien, donc avec énormément d'incertitudes, et il est difficile de prendre des décisions. C'est pour ça que la formation, ce n'est pas seulement la formation initiale, c'est la formation des gens aussi en situation de décision. On pourra peut-être évoquer donc, le cas des Alumni for the Planet, donc qui, je dirais, est une continuité logique du manifeste vers, cette fois-ci, les diplômés, c'est-à-dire les gens en situation, donc, qui, dans leur carrière professionnelle, doivent se former à ces questions de changement climatique pour pouvoir prendre, je dirais, des décisions qui soient les plus éclairées possibles vis-à-vis de ces questions-là. Voilà, donc c'était juste...
Clémence Boreux, donc tout ça suppose, et je vais vous lire une question posée par un étudiant justement, une étudiante d'ailleurs, qui dit « Bonjour, j'ai aussi été diplômée il y a plus d'un an, vous avez parlé de formation pour étudiants et d'amélioration de la place du développement durable dans l'enseignement, qu'en est-il des formats après études pour les personnes déjà diplômées qui souhaitent s'orienter sur des métiers en éco-conception ?» RSE, voilà, quand leur diplôme n'est pas spécialisé. Donc, c'est-à-dire, là, il y a une autre question, c'est-à-dire ces étudiants qui, eux, ont été formés sans bénéficier d'une formation, mais qui, avant de rentrer sur le monde, ou sur le marché du travail, aimeraient bien justement être formés, ou peut-être parallèlement. Et en même temps, Clémence Boreux, quand j'entends les propos de Philippe Drobinski, j'ai envie de dire, mais cette formation, elle doit, au-delà des écoles, se faire finalement à l'intérieur des grands groupes, dans toutes les entreprises qui pourraient bénéficier. Donc là, c'est une autre dimension de l'enseignement à imaginer, à diffuser.
Oui, complètement. Mais moi, je pense que c'est une des tragédies, moi, que j'ai envie de dire tragédie, parce qu'à chaque fois, ça me brise un peu le cœur, mais... Donc au Shift, on a une belle armée de bénévoles maintenant, qui sont près de 10 000, qui nous aident. Et une grande partie de cette masse-là sont des jeunes diplômés, dont beaucoup déclarent, témoignent avoir découvert le poteau rose après la fin de leurs études. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve un peu mal au cœur, parce que du coup, c'est souvent des jeunes personnes qui auraient potentiellement pris une autre trajectoire s'ils avaient compris de quoi leur avenir serait fait. Et donc il y a cette volonté de la part des jeunes diplômés de se reconvertir un peu sur le tard et en même temps au-delà de ça, mais qui est aussi une question de formation continue, puisque c'est de ça qu'il s'agit, formation continue, formation professionnelle, mais c'est de former toute la masse des gens qui sont déjà sur le marché du travail, qui sont déjà dans le monde actif, à une meilleure compréhension du rôle qu'ils doivent tenir dans la société et dans l'économie. Donc on parlait des gros groupes tout à l'heure, mais au sein même des COMEX de ces boîtes-là, finalement, un des gros constats qui a été fait par notamment les dirigeants avec lesquels on parle au Shift, c'est en fait on a besoin de former nos collaborateurs proches à la tête des entreprises, nos cadres intermédiaires, un petit peu tout au long de la chaîne en fait, parce qu'il ne suffit pas d'avoir une, deux ou trois personnes qui sont convaincues. Ce que disait Philippe sur le fait que c'est un projet de société en fait dont on parle, et donc la nécessité d'avoir un projet commun, un dialogue commun sur ces sujets-là, et donc qu'on comprenne les uns les autres, et en même temps aussi entre filières et entre différents types de formations, de quoi on parle, et qu'on s'oriente dans la même direction, parce que ça, c'est un vrai sujet aussi, c'est qu'on a un problème de schizophrénie, parfois presque, parfois même entre les métiers ou entre les filières, mais parfois même au sein d'une même filière, juste dans la vision. Et donc, il y a besoin aussi de se former collectivement, tout au long de la vie, pour essayer de rattraper un peu le retard qu'on a en termes de compréhension des enjeux auxquels on est confronté, et en même temps d'une manière qui soit un peu uniforme, ou en tout cas un peu cohérente entre les filières. Et là, c'est un gros travail, parce qu'en fait, un des gros problèmes qu'on a, c'est simplement sur la définition du sujet. La définition de c'est quoi cette transition dont on parle, on a parlé de développement durable, on parle de RSE, on parle de transition écologique, les ingénieurs, ils aiment bien parler d'économie circulaire, de low-tech, et finalement tout ça se mélange, recoupe pas forcément la même chose, recoupe pas forcément la même vision aussi du projet qu'on peut mener, et ça empêche un dialogue commun. Or, on parle des ingénieurs, mais les ingénieurs sur le terrain, ils doivent discuter avec des gens, des élus, ils doivent discuter avec des administrés, ils doivent discuter avec des associations, ils doivent discuter avec tout un tas de gens, des gens de la fonction publique, qui ont une formation différente d'eux. Et aujourd'hui, ils n'ont pas de terrain d'entente, ils n'ont pas un projet commun. Et donc finalement, c'est plus compliqué ensuite de travailler et d'œuvrer dans la même direction en termes de transition. Et donc ça, c'est un vrai sujet, se mettre d'accord sur ce qu'on recherche. Et en même temps, il faut aussi que chaque filière comprenne ses interactions avec les autres pour pouvoir les interpeller. Et donc, il faut arriver à travailler le lien entre science et société, le lien entre technique et politique, et qu'il y ait un peu plus de perméabilité. Donc, moi, je parle des ingénieurs parce que je travaille sur le sujet en ce moment, mais j'ai moi-même fait Sciences Po. À Sciences Po, je n'ai pas entendu le mot énergie en 5 ans. C'est alarmant, en fait, parce que l'énergie, c'est ce qui a guidé tout le développement, conditionné tout le développement de nos sociétés et de notre économie. Aujourd'hui, on a un vrai problème lié à l'approvisionnement en énergie fossile, dont on est encore totalement dépendant. Et en fait, aujourd'hui, on n'enseigne pas à des gens qui vont travailler dans la fonction publique, qui vont devenir élus, qui vont être journalistes, parce que c'est à ça qu'on se destine beaucoup à Sciences Po. Et pour l'instant, les gens qui occupent ces fonctions-là ne savent pas ce que c'est que l'énergie, où elle se situe et à quoi elle sert. Donc il y a aussi un besoin de comprendre collectivement à quoi on est confronté et comment est-ce qu'on peut répondre à ces enjeux-là. Donc je pense qu'il y a ce sujet-là, et effectivement, il faut que ce soit une question qui soit posée de manière récurrente, qui est évolutive aussi, puisque notre compréhension du sujet et de la manière dont on l'aborde est évolutif. Et il faut que ce soit partagé entre à la fois les gens qui dirigent des entreprises, mais aussi des gens qui sont plus en bas dans la chaîne de valeur et la hiérarchie des organisations, et en même temps entre les filières. Sinon, on ne peut pas y arriver.
Quand vous parlez de Sciences Po, Clémence Voreux, c'est-à-dire, c'était il y a quelques années pour vous, ou parce que il y a quand même
J'ai fini il y a 4 ans et demi.
D'accord.
Et c'était Sciences Po Strasbourg. Je vais pas mentir sur mon école.
Non, mais en tout cas, c'est intéressant. C'est juste essayer de savoir, parce que comme on voit bien que depuis 2018, il y a eu quelque chose et une bascule. Ce qui est aussi intéressant de voir, c'est est-ce que depuis 2018, ces grandes écoles et ces institutions ont vraiment chercher à mettre en place une offre pour répondre à cette demande. On peut peut-être faire une précision, parce qu'on parle aussi des entreprises et RSE. RSE, c'est responsabilité sociétale des entreprises, des enjeux environnementaux, sociaux, économiques et éthiques. Hein, c'est ça. Donc, c'est vraiment une sorte de label, finalement, d'entreprise. Philippe Drobinski, est-ce que finalement, il ne faudrait pas aussi penser peut-être, ou est-ce que ces grandes écoles, puisqu'on parle quand même des grandes écoles, mais pas que celles qui forment les ingénieurs, celles aussi qui forment les fonctionnaires, les hauts dirigeants, les politiques et autres, est-ce que ces écoles ne pourraient pas utiliser leurs fichiers d'anciens élèves et faire une sorte de rappel des anciens élèves pour proposer des formations à ces enjeux environnementaux qui n'étaient pas au programme de ces anciens élèves justement, mais peut-être qu'il y aurait là un levier. Est-ce que ce sont des discussions qui ont cours dans les grandes écoles?
Alors, oui, elles ont cours dans les réseaux d'anciens, puisque donc, il y a l'initiative Alumni for the Planet qui rassemble... Alors, qui rassemble à la fois les grandes écoles, qu'elles soient d'ailleurs d'ingénieurs ou de commerce, mais aussi les universités. Ça, c'est important, puisque c'est vrai que si les réseaux d'anciens sont des réseaux extrêmement forts dans les écoles d'ingénieurs, dans les écoles de commerce, elles sont un peu plus diffuses dans les universités, mais cette initiative véritablement est une initiative jointe, donc justement de proposer... Alors, qu'est-ce que c'est qu'Alumni for the Planet ? C'est une plateforme qui vise à mobiliser et à engager, je dirais, les anciens diplômés aux questions du développement durable, d'une part, donc quelque part leur faire signer un manifeste, je dirais, après avoir été... leurs écoles, leurs établissements de formation, et puis surtout à leur permettre d'accéder à une offre de formation. Donc en fait, c'est quoi un peu l'idée ? C'est-à-dire, on s'engage, et puis on s'engage à quoi ? On s'engage à essentiellement se former, donc s'auto-former, en accédant donc à une, je dirais, une bibliothèque, une médiathèque de support, donc accessible en ligne, que chacun donc, s'engage à passer une heure par semaine à regarder une vidéo, etc. Enfin, à acquérir. Alors, c'est pas un cours, hein, j'appellerais ça plus de la sensibilisation, mais de la sensibilisation, en tout cas, accéder à un contenu qui est assez divers, qui est assez, abondant, et puis qui, quand même, présente les choses en fond. Et donc, l'idée, c'est un petit peu de s'auto-former pour pouvoir acquérir, je dirais, un corpus de savoir qui soit au moins à minima pour pouvoir comprendre un petit peu les enjeux. Donc cette plateforme existe, elle a été lancée en novembre dernier, donc c'est tout neuf, hein. Mais en tout cas je pense que c'est exactement cette direction que l'on doit prendre. C'est à la fois donc permettre une plateforme, un accès facile à du contenu, donc ça c'est ce que fait Alumni for the Planet. Pour les anciens, c'est bien évidemment, le niveau d'après, je dirais que c'est la formation professionnelle, c'est-à-dire l'engagement, cette fois-ci, via des centres de formation, donc à du contenu. Cette initiative existe. S'il y a un point que j'aimerais soulever quand même, c'est les obstacles auxquels on est confronté dans la formation, je dirais, un petit peu universelle de l'ensemble de nos diplômés ou de nos étudiants, c'est-à-dire en formation, à ces questions de développement durable. Ces questions-là, il faut un vivier d'enseignants, je dirais. Donc, il faut des gens formés qui puissent enseigner. Et ce n'est pas un vivier qui est aussi large qu'un prof de maths, je dirais, pour caricaturer encore une fois un petit peu mon discours. Il n'y en a pas partout, et donc ce sont des compétences qu'on va retrouver dans certains endroits. Il peut y avoir des centres plus experts en biodiversité, des centres plus experts en sciences du climat, et on voit que les problèmes d'ailleurs, d'environnement sont des problèmes extrêmement multidisciplinaires. Donc ces compétences disciplinaires, donc avoir les experts capables de former, sont pas accessibles partout, et donc il faut qu'on ait de l'imagination pour pouvoir élaborer des supports pédagogiques qui soient partageables. C'est-à-dire que, Clémence Vaureux parlait de l'INSA, par exemple, eh bien, peut-être qu'à l'INSA, l'INSA n'a peut-être pas tous les experts nécessaires pour pouvoir offrir une offre de formation à leurs étudiants. En revanche, ce qui est possible, c'est qu'il y en ait ailleurs et qu'on puisse mobiliser, je dirais, des experts un petit peu tout le pays pour pouvoir créer des supports pédagogiques, vidéos, des conférences, etc. Enfin, il y a toute une possibilité, une palette de supports pédagogiques qui serait intéressant de développer pour que l'on puisse accéder à des cours, à des contenus, un petit peu quel que soit l'endroit où l'on se trouve, donc telle école ou une autre. Voilà, donc ça c'est important. C'est Alumni for the Planet, c'est un petit peu ça aussi, c'est-à-dire c'est finalement accéder à du contenu. Et je pense qu'il faut qu'on arrive à organiser un petit peu l'élaboration de contenu, que ce soit donc pour l'ensemble des grandes écoles, des universités, mais aussi pour les diplômés.
Donc, Alumni for the Planet, on pourra effectivement peut-être voir avec la BPI s'il y a moyen de mettre des liens, en tout cas renseigner, parce qu'on sent bien qu'à travers les questions du public, il y a quand même cette envie de savoir comment se former, soit dans les études, soit une fois sorti des études et jeunes diplômés arrivant sur le marché du travail, et puis ceux qui sont vraiment des anciens maintenant sur le terrain du travail, mais qui ont besoin de comprendre. Clémence Voreux, peut-être sur ces questions-là.
Oui, bah, je pense que c'est effectivement hein, ce que Philippe a dit est très vrai, c'est qu'il faut arriver à répondre. En fait, globalement, moi, ce que j'ai tendance à dire sur l'enseignement supérieur, c'est que contrairement à l'éducation nationale, où on a des programmes qui sont très centralisés au niveau de l'État et qui sont ensuite enseignés sur l'ensemble du territoire, dans l'enseignement supérieur, chaque établissement est responsable de ce qu'il enseigne. Mais il l'est en même temps dans un cadre qui est défini par l'État et avec des incitations qui sont celles du marché du travail, mais aussi du marché de l'environnement, de l'enseignement supérieur. Et donc, il faut arriver à actionner un peu tous les leviers en même temps qui permettent de faire bouger ces établissements. Donc, il y a aller les convaincre que c'est une bonne chose à faire. Mais en parallèle, il y a effectivement, je le disais, essayer d'encourager les entreprises à prendre conscience de leurs besoins en termes de compétences. Et à côté de ça, il faut aussi que l'État joue son rôle et change le cadre de l'enseignement supérieur pour permettre simplement à ce que l'environnement soit favorable à l'enseignement de ces enjeux de transition. Donc, si on prend les écoles d'ingénieurs, c'est la commission des titres d'ingénieurs qui définit à quoi on forme un ingénieur et qui peut dire, voilà, qui peut décider de mettre en avant un certain nombre de sujets liés à la transition écologique. Aujourd'hui, c'est pas tout à fait le cas. L'État a d'autres leviers à travers les ministères de tutelle qui accompagnent aussi les établissements du supérieur sur tel ou tel secteur d'activité et qui peuvent changer et influencer les contenus des formations. On peut aussi aujourd'hui, ce qui fait beaucoup blocage, c'est l'environnement des enseignants-chercheurs, l'environnement académique, qui fait qu'aujourd'hui, les chercheurs ne sont pas du tout encouragés à enseigner, à se consacrer à leur enseignement, à se former. C'est simplement quelque chose qui n'est pas valorisé dans leur carrière. Donc aujourd'hui, l'enseignement, c'est, sauf quand on est en fin de carrière, mais quand on est un jeune chercheur, c'est quelque chose qui est compliqué à quoi passer du temps. Et donc, on a effectivement cette question de pool d'enseignants qu'il faut former. Et donc, il faut avoir des formations à disposition, des budgets pour former les enseignants. Donc, il faut arriver à créer tout cet écosystème qui est favorable simplement et qui permet aux établissements volontaires de pouvoir effectivement faire ce qu'ils ont envie de faire et aux établissements qui sont moins volontaires, parce qu'il y en a un certain nombre, de ne pas avoir d'excuses pour ne pas agir. Et donc, pour apporter une réponse à la fois à la demande des étudiants et quand la demande des étudiants n'est pas là, pour s'y substituer. Parce qu'il ne faut pas non plus trop compter uniquement sur les étudiants, ce n'est pas leur rôle. Il y a beaucoup d'établissements qui ont tendance un peu à compter dessus. C'est bien de s'appuyer sur la demande des étudiants et leur mobilisation. Il faut s'appuyer sur les alumni qui jouent aussi un rôle qui pourrait être encore plus important qu'il est aujourd'hui. Mais il faut aussi changer l'ensemble du cadre qui aujourd'hui n'est pas favorable. De la même manière, les classements d'établissements aujourd'hui, on en a beaucoup au niveau français, Challenge, l'étudiant, l'ONICEP, l'usine nouvelle, etc., aujourd'hui ne mettent pas en avant l'enseignement des enjeux de transition à tous les étudiants dans leurs critères, ou alors avec une pondération qui est absolument négligeable. Et aujourd'hui, c'est un vrai blocage, notamment pour les écoles de commerce qui suivent de près ces classements, mais les écoles d'ingénieurs aussi. Donc, il faut aussi arriver à changer tous ces paramètres qui viennent influencer la stratégie d'établissement en termes d'enseignement et aujourd'hui qui sont simplement pas au diapason des enjeux de transition écologique.
Philippe Drobinski, comment est-ce que le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a réagi depuis 2018? Est-ce que vous le savez? Est-ce qu'il y a eu organisation de rencontres, de groupes de travail, livres blancs demandés? En un mot, est-ce qu'on se pose la question justement de comment accompagner cette demande et faire évoluer l'enseignement?
Alors, je n'ai pas été dans les groupes de travail, donc je vais avoir juste je vais apporter juste le peu d'éléments que je sais. Donc, non, des groupes de travail, des discussions, ça c'est clair, mais peut-être, je pense que Clémence va peut-être en sonner d'ailleurs plus là-dessus, donc je pense que ce sera elle de nous éclairer là-dessus. Encore une fois, pour moi, il y a la volonté de faire, c'est-à-dire de dire voilà ce qu'il faut enseigner, ça c'est quelque chose d'important. Mais moi, je dis qu'une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose, parce que entre une volonté conclure quant à la nécessité de former sur ces questions de développement durable me paraît essentielle, mais après, il faut savoir le mettre en musique. Et le mettre en musique, pour moi, c'est maintenant une vraie réflexion. C'est-à-dire que je pense qu'on peut passer le stade, maintenant qu'on a quelque part passé le stade de la nécessité, il faut passer le stade de l'action, de comment est-ce qu'on opère ça. Et juste par rapport à quelque chose qu'a dit Clément sur des établissements qui ne souhaitent pas ou qui ne veulent pas. Enfin, je pense qu'il y a deux, il peut y avoir des raisons peut-être, je dirais, un peu profondes, qui disent, bon, voilà, ça ne nous intéresse pas. Mais il y a aussi, encore une fois, la question des moyens dont on dispose pour créer l'offre. Et on peut très bien ne pas avoir envie parce que les moyens en face ne sont pas disponibles pour pouvoir créer l'offre. Donc, la façon dont on crée l'offre, sachant qu'encore une fois, le vivier d'experts susceptibles de la créer n'est pas important, il faut pouvoir commencer à mettre un petit peu d'intelligence dans le système pour pouvoir voir quels sont encore une fois les outils qu'on utilise, les supports qu'on utilise pour que, quel que soit l'endroit où on se trouve sur le territoire, eh bien, des établissements d'enseignement supérieur et de recherche puissent former à ces questions-là.
Alors, comment est-ce que si vous vouliez peut-être ajouter, hein, Clémence Vouroux, justement, sur ces questions-là, la réaction, le travail peut-être mis en place ou lancé, impulsé depuis le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche?
Oui, parce que je pense qu'il faut en rendre compte. Il n'est pas suffisant, mais il a quand même démarré, donc ce serait dommage de ne pas en parler. Donc, ce qui s'est passé depuis notamment 2019, il y a eu une proposition de loi qui a été déposée par 3 députés et soutenue par 80 députés en septembre 2019, qui visait à généraliser l'enseignement des enjeux de transition écologique dans l'enseignement supérieur. Et suite à ça, donc, cette loi n'a pas été votée, elle a été un peu enterrée, notamment avec les grèves qui ont suivi, puis la situation sanitaire. Mais en février 2020, Frédérique Vidal, donc la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, a créé un groupe de travail qu'elle a confié à Jean Jouzel, donc qui est climatologue aussi, pour réfléchir à la généralisation du développement durable dans l'enseignement supérieur. Et donc j'ai participé à ce groupe de travail qui rassemblait un certain nombre de représentants de parties prenantes, disons, de l'enseignement supérieur en France. On a travaillé pendant à peu près 6 mois, plusieurs après-midi. On a remis à la ministre une note avec nos recommandations, en tout cas une première version de nos recommandations en résumé au mois de juillet. Ensuite, on n'en a plus entendu parler pendant, pendant 8 mois. Et là, on devrait a priori très prochainement recevoir une nouvelle lettre de mission qui nous demande de reprendre nos travaux pour finaliser nos recommandations, les approfondir et en faire quelque chose de plus opérationnel. Donc ça, c'est quelque chose qui est de nouveau à l'ordre du jour. Sachant qu'en attendant, il y a eu la loi de programmation de la recherche qui a introduit une mention de la sensibilisation et de la formation aux enjeux de la transition écologique et du développement durable dans les contributions de l'enseignement supérieur et de la recherche. Donc ça a été introduit dans le code de l'éducation. Maintenant, il y a besoin de le décliner de manière beaucoup plus opérationnelle dans le cadre d'actes réglementaires. Mais ça fait déjà évoluer les missions de l'enseignement supérieur, ce qui est intéressant. Et qui montre qu'il y a une volonté quand même de commencer à se positionner là-dessus. Donc maintenant, on attend de voir ce que ça peut donner en termes de déclinaison opérationnelle et en termes aussi de moyens qu'on met en face, comme ça a été mentionné par Philippe, parce qu'effectivement, il faut vraiment rappeler qu'on ne peut pas mettre sur le même plan une école d'ingénieurs située à Paris ou en région parisienne et une petite université de province dans une petite ville qui manque de moyens et où du coup l'expertise n'est pas forcément sur place, où les contacts, le réseau n'est pas forcément facilement mobilisable. Et donc il y a vraiment un besoin d'action de l'État, simplement pour généraliser cet enseignement, et pour ne pas se retrouver dans une situation où il est réservé à une minorité de jeunes qui suivent des études, qui en fait qui vont faire partie de l'élite française. C'est pas ça le but du jeu. Donc effectivement, il y a vraiment cette réflexion à avoir. Donc l'État s'empare du sujet, on attend de voir comment il va concrétiser ça d'une manière un peu sérieuse dans les mois à venir.
Comme vous disiez, Philippe Dourbinski, finalement, on manque aussi de moyens et de professeurs pour enseigner. Il faudra peut-être développer des supports pédagogiques. Et on parle de cette crise sanitaire qu'on est en train de traverser et que tout le monde traverse, hein, y compris justement les étudiants, les enseignants et la société d'une manière générale. Peut-être que ça donnera la possibilité de mettre en place des cours partagés ou en visio et à l'échelle nationale et ne plus sentir peut-être aussi ce fossé entre eux, à la fois les universités parisiennes un peu mieux dotées avec la proximité des spécialistes et puis ceux qui sont plus éloignés. On peut espérer ça. Justement, est-ce que cette année Covid a changé la donne et dans quel sens? Est-ce que vous avez perçu par rapport à l'enseignement parce que la pandémie le lien fait par les chercheurs et les scientifiques avec justement les enjeux environnementaux a été clairement mis, me semble-t-il, sur le devant de la scène et médiatisé. Est-ce que ça a pu réveiller ou ne serait-ce que des grands groupes aussi qui ont été touchés par l'économie qui s'est arrêtée, le monde s'est arrêté, et on a eu le sentiment d'une plus grande prise de conscience des enjeux environnementaux. Est-ce que vous avez perçu peut-être autre chose qui pouvait se passer dans les strates industrielles ou les sphères supérieures?
Ce qui se passe avec la crise Covid, de toute façon, est sans précédent. Donc, nos enseignements sera un petit peu tous les jours, d'abord parce qu'elle se poursuit, donc c'est quelque chose qu'on doit gérer dans la durée. Je pense que, c'est sûr que j'ai fait un webinaire à l'époque, juste après le premier confinement, le premier confinement ayant été particulièrement drastique. Bon, ce qui est intéressant, je dirais, la première chose, effectivement, la prise de conscience, que tout d'un coup, le ciel peut être vraiment bleu, que tout d'un coup, le silence devient d'or et qu'on peut apprécier le silence dans la journée, qu'on entend à nouveau les oiseaux chanter, que les bêtes sauvages s'approprient le milieu urbain. Donc, tout ça sont des choses qui ont été... Bien évidemment que les émissions de gaz à effet de serre aient été réduites 10%. Il est évident qu'il y a eu un impact immédiat, visible, de la situation sanitaire sur, effectivement, la mise à l'arrêt quasiment de l'économie, et donc l'impact, je dirais, un petit peu bénéfique, au sens... Je mets beaucoup de guillemets là-dedans, parce que, bien évidemment... là, on parle quelque chose de à l'époque de momentané, de transitoire. Une économie à l'arrêt pose d'autres problèmes. Je ne veux pas qu'il y ait bien évidemment de mauvaises interprétations des propos, mais il est évident que ça nous a mis face à de nouveau un petit peu, peut-être un petit peu plus en relation avec la nature, aussi à un rythme qui tout d'un coup était beaucoup moins effréné. On vit dans une société où tout va très vite. Peut-être il y a forcément des choses en relation avec, je dirais, notre environnement naturel qui a probablement été réveillé quelques consciences et qui a fait un petit peu de bien. Maintenant, derrière tout ça, je reparlais plutôt d'enseignement. Je ne sais pas si... il y a un autre élément qui est apparu pendant la crise sanitaire, c'est clairement la question de ce qu'on a appelé activité essentielle. Alors, sans forcément aller jusqu'à définir des activités essentielles pour pallier au changement climatique, et je pense que là, ce serait un petit peu poussé loin. Malgré tout, c'est la première fois qu'on réfléchit à ce dont on a vraiment besoin pour que la société puisse continuer à vivre, et je crois que la transformation de notre société nous invite forcément aussi à repenser à ce dont on a réellement besoin, et ce qui est superflu. Et je crois que ça aussi, ce sont des enseignements qu'on peut tirer de la crise Covid. Maintenant, je vais plutôt parler d'enseignement. Il est évident que enseigner à distance, c'est clairement pas quelque chose que les enseignants souhaitent, les étudiants non plus. On est tous en souffrance, on est en souffrance de ne pas pouvoir interagir. C'est fatigant, on est beaucoup moins dans l'échange. En revanche, même chose, même s'il y a des côtés forcément extrêmement négatifs, il y a aussi des côtés positifs, c'est-à-dire que ça nous a amené à forcément réinventer un petit peu notre façon de former, de trouver justement des outils, des supports pédagogiques qui sont différents. Et je pense que ça doit alimenter justement peut-être le groupe de travail sur comment est-ce qu'on met en opération finalement la formation un petit peu universelle sur ces questions de développement durable. Il est clair qu'on n'aura pas des spécialistes du climat dans toutes les universités partout en France. On souhaite peut-être que, bien évidemment, des moyens soient mis pour davantage recruter. Et ça, c'est clair que je le promeux. Enfin, il est évident que tout le monde n'aura pas toutes les ressources pour pouvoir internaliser intégralement sa formation sur ces questions-là. Et on doit effectivement s'appuyer sur des supports, sur de nouveaux supports. Et clairement, la crise Covid nous a permis de créer davantage de vidéos pour pouvoir enseigner, d'outils interactifs, de ce qu'on appelle des serious games, ou des sortes de jeux de rôle pour pouvoir sensibiliser les étudiants sur les questions de transition énergétique. Nous, on a créé un dans Energy for Climate autour des smart buildings. Voilà, comment est-ce qu'on gère un réseau intelligent, etc. Donc, avec un jeu en ligne. Voilà, donc des QCM, etc. Donc, il est évident que la crise Covid nous a amené à produire des supports. Et moi, je pense qu'il faut s'inspirer de l'imagination qu'ont eu les enseignants pour pouvoir continuer à enseigner sur ces questions-là, pour pouvoir, cette fois-ci, peut-être les mettre à disposition d'un plus grand nombre.
Clémence Bourreux, on a quand même précisé que quand on parle de ces jeunes et de la demande des jeunes, ce n'est pas les jeunes à 100%, c'est une catégorie, un pourcentage de cette génération jeune, mais qui gonfle ses rangs aussi et qui a cette demande. Et puis bien sûr, on sait que c'est une génération avec ses contradictions, à la fois un esprit vert et puis aussi des habitudes de consommation invétérées pour certains. Donc voilà, bien évidemment, il ne s'agit pas de faire un tableau non plus complètement idyllique ou repeint en vert de A à Z. Malgré tout, on a tous en mémoire des propos, voire des vidéos qui sont devenues virales. Je pense par exemple à cette vidéo de l'étudiant nantais, il était à Centrale Nantes, hein, Clément Chouanne, qui lors de son discours de remise de diplôme, c'était le 30 novembre 2018, avait déclaré être perdu. Il se sentait perdu face à la situation climatique et aux inégalités qui s'aggravaient, et lui-même se disait incapable de se reconnaître dans la promesse d'une vie de cadre supérieur, en rouage essentiel d'un système capitaliste de surconsommation. Est-ce que vous avez, et l'un et l'autre, peut-être la visibilité en tout cas de ce que ces jeunes qui sont diplômés et qui avaient cette demande, cette attente, qui étaient en perte de sens, mais en quête de sens aussi? Qu'est-ce qu'ils ont fait finalement? Est-ce qu'ils ont eu des outils? Ils ont imaginé peut-être leurs propres moyens d'aller ou de trouver des métiers qui leur ressemblent? Est-ce qu'on a une visibilité sur ça? C'est-à-dire comment ils s'en sont sortis pour trouver un métier qui les rende heureux?
Moi, de ma perspective, donc, je travaille avec beaucoup d'ingénieurs. Au Shift, il y a un certain nombre d'ingénieurs, pas que, mais pas mal. J'ai l'impression que déjà ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont rencontrés, donc ils se sont retrouvés moins seuls, ils ont trouvé des moyens de se mettre en réseau en fait, de passer à l'action d'une manière coordonnée et surtout d'être moins seuls simplement face aux problématiques auxquelles ils faisaient face et qui les déprimaient pas mal. Donc je pense que ça c'est un aspect important. Il y en a qui ont réussi à trouver des emplois dans la transition écologique. Et il y en a simplement qui sont encore en train de se chercher, qui se forment par tous les moyens qui sont à leur disposition. Et ce n'est pas facile, mais heureusement, grâce effectivement à tous les outils qui sont en ligne, toutes les ressources qui sont à disposition, c'est possible. Mais globalement, ils n'ont pas encore trouvé de réponse à leurs questions. Ce qui se passe, c'est qu'ils sont sans doute un peu moins démunis, simplement parce que déjà, ils trouvent des échos à leurs réflexions dans le débat public, puisque... Moi, quand je suis arrivée au Shift, globalement, les questions climat-énergie, on n'en parlait pas. C'était très, très, très peu mentionné dans les médias. Et donc, globalement, les gens qui s'intéressaient à ces sujets étaient très seuls dans leur tête. Donc, déjà, ils trouvent écho, simplement, dans le débat public sur ces sujets-là. Après, ils ont encore un certain nombre de problématiques à clarifier, notamment quand ils sont à l'école ou qu'ils sortent d'école. Encore une fois, par rapport à cette question de quel est leur rôle. Donc, globalement, j'ai l'impression qu'ils sont amenés de plus en plus à réfléchir au rôle qu'ils vont avoir à occuper et à la définition de ce qu'ils sont. Par exemple, l'ingénieur. Être ingénieur, ce n'est pas finalement un métier en tant que tel, c'est un profil de personne, un profil aussi professionnel. Et nous, ce qu'on essaye d'intégrer aussi comme réflexion sur la formation d'ingénieur, c'est la formation sur le rôle de l'ingénieur et sa définition. Est-ce que c'est un exécutant, comme on a pu parfois le laisser entendre, auquel on donne des ordres d'une certaine manière, où on passe des commandes et qui exécute? Est-ce que c'est un technicien? C'est de plus en plus un manager. Quel est son niveau de responsabilité, maintenant qu'il est aussi très souvent cadre? Et donc réfléchir un peu à tout ça. C'est aussi une personne qui est polyvalente, qui est interdisciplinaire, et qui a du coup cet avantage-là, qui est la seule qui peut avoir une approche systémique aujourd'hui, parce qu'elle a les compétences qui lui permettent de l'avoir, et donc comprendre de manière assez globale les enjeux auxquels on fait face. Et donc finalement, interroger cette place-là à occuper dans la société, ça permet d'un peu mieux répondre au sujet. Par contre, ça ne résout pas les difficultés liées à la philosophie générale de leur formation. Dans les écoles d'ingénieurs, on voit beaucoup la difficulté du rapport à l'innovation, au progrès technique, où on a tendance à beaucoup les projeter dans des imaginaires où ils doivent inventer, innover, pour juste parce qu'ils peuvent, en fait, pour repousser les limites de la science, et plus pour répondre à un besoin, et notamment un besoin de société. On a une vision très technophile, souvent, qui est portée par un certain nombre d'enseignants, et donc voilà, parfois c'est des choses qui sont contradictoires avec un certain nombre d'éléments qui sont intégrés par les jeunes, notamment les jeunes ingénieurs. Et donc, voilà, il y a tout un travail à faire qui peut durer des années simplement en termes de réflexion. Donc, je pense qu'ils ne sont pas forcément moins perdus, mais ils sont moins seuls et ils ont de quoi s'occuper en attendant de trouver exactement la place à occuper dans la société.
En sachant que tous les avis hein, scientifiques, politiques, économiques le disent, c'est quand même un secteur, ce secteur environnemental et du développement durable qui est porteur d'emplois, en tout cas. C'est vraiment créateur d'emplois. Donc, pour les industriels, il y a quand même un terreau, là, quand on voit le fléchage un petit peu d'argent ou dans les projets de développement. C'est ce qui ressort, en tout cas, Philippe Drobinski, c'est vraiment ces questions de millions même d'emplois à la clé, si on part sur ces développements-là.
Oui, moi, je crois que ce que dit Clément, c'est important. C'est-à-dire que je crois que surtout les diplômés, enfin les jeunes diplômés, sont en quête de sens. Mais je pense qu'on est beaucoup tous en quête de sens, hein, de toute façon, face à une société qui, quand même, nous malmène un petit peu. La question du sens est importante, ça c'est clair. Et après, il y a la question on doit évoluer vers une société qui nous permettent de préserver notre environnement, et je crois que c'est ça le sens qu'on a envie de lui donner, et effectivement, cette transformation radicale de notre société, forcément, est créatrice d'emplois. On va avoir besoin des gens pour embrasser un petit peu cette transformation. Donc, voilà, que ce soit, comme l'a dit Clémence au début, que ce soit dans des emplois divers, hein, voilà, directement en lien avec la décarbonation, ou bien de façon indirecte, dans des entreprises pour lesquelles l'activité principale n'est pas verte, mais qui doivent en tout cas contribuer, je dirais, au verdissement de notre société.
Je vous propose de prendre une réaction, en tout cas, qui peut aussi susciter ou des questions, des réactions de votre côté, hein, puisque là, il nous reste 5-10 minutes avant de clore cette rencontre entre nous. Donc voilà, une réaction. Ingénieurs sans frontières et ingénieurs engagés se mobilisent sur la prise en compte des enjeux environnementaux dans les formations. Petit hic, depuis plusieurs années, le gouvernement se désengage financièrement des universités et écoles d'ingénieurs. De plus en plus d'écoles sont obligées de faire partenariat privé avec des grands groupes pour préserver la qualité de leur enseignement. Il y a la suite justement de cette réaction un peu longue. En conséquent, la direction se retrouve en porte-à-faux entre des étudiants qui veulent du changement et de généreux mécènes qui, eux, n'ont pas intérêt à voir de vrais changements sociétaux intervenir. Le parrain de ma promotion était Vinci Énergie, par exemple. Voilà, on sent la réaction d'un étudiant heurté.
Bah, je pense que c'est une question, enfin, je pense que Philippe en parlera aussi sur les aspects recherche, mais finalement c'est une question, une problématique qui se pose pour l'enseignement comme pour la recherche. Aujourd'hui, en France, on investit très très peu dans les questions d'enseignement et de recherche. On est le pays qui paye, je crois, très largement le moins ses enseignants-chercheurs et ses chercheurs en général en Europe, voire dans le monde. Et donc forcément, pour avoir des opportunités de développer telle ou telle chaire de recherche ou tel ou tel type de recherche ou d'enseignement, très souvent, les établissements, les universités comme les écoles se retrouvent en situation de développer des chaires avec des partenaires qui sont souvent des partenaires économiques, et ce qui fait débat. Donc, en fait, on est à la croisée entre deux enjeux et un choix qui doit être, est-ce qu'on veut mettre plus d'argent public et donc dont on pourrait estimer qu'il devrait conditionner le développement de choix visant l'intérêt général, contrairement aux intérêts privés, ou est-ce qu'on veut continuer à ne pas investir ce champ-là et le laisser au secteur privé avec forcément les dérives qui peuvent en découler en matière d'orientation de l'enseignement, d'orientation de la recherche, ce qui n'est pas du tout systématique d'ailleurs, mais en tout cas qui peut être dénoncé.
Moi j'ai une vision qui est un petit peu plus partagée là-dessus. Enfin, je n'oppose pas le privé au public, en fait, c'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, sur les questions plus de développement durable, c'est inclusif. Alors après, bien évidemment, il faut faire attention que l'engagement d'un industriel soit sincère. Mais moi, je n'ai pas de problème à ce que les industriels, particulièrement au niveau des écoles d'ingénieurs, etc., quelque part, il faut quand même mettre en connexion les formations avec l'emploi. Donc, le problème, pour moi, ce n'est pas fondamentalement de savoir si des parties prenantes privées, si des entreprises privées contribue à du financement de la recherche et de l'enseignement. Encore une fois, même sur la recherche sur le climat, l'innovation autour des questions environnementales, eh bien, peut-être l'innovation se fait dans les laboratoires, mais les déployeurs, c'est à la fois la puissance publique avec la régulation ou le secteur socio-économique. Donc il faut au contraire qu'on fluidifie, je dirais, ces relations au maximum, parce qu'on a besoin de transférer le plus vite possible les solutions qui permettront, je dirais, d'atténuer le changement climatique et de préserver notre environnement. Donc moi, je n'oppose pas forcément un public-privé. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'on ne doit pas dépendre... Il faut faire attention au fait que l'engagement de l'État soit à la hauteur qui nous permette de ne pas dépendre exclusivement de financement privé, parce que forcément, là, on n'a pas forcément les coudées, la liberté, je dirais, d'action, parce que l'intérêt de l'entreprise privée, sans forcément chercher quelque chose qui soit, comment dire, le bien, à mettre le bien et le mal d'un côté, à l'opposé. Hein, je veux dire, une entreprise privée, c'est juste qu'elle a son domaine d'activité, elle a besoin de gens formés à ça, et donc forcément, elle contribue quelque part au développement de formation. Par contre, il ne faut pas que l'on soit lié à cela exclusivement, et on a besoin que l'État ne se désengage pas et renforce son engagement, à la fois dans la recherche et l'enseignement. Mais après, moi, je pense que ce partenariat n'est pas en soi une difficulté, c'est même peut-être quelque chose de louable. Par contre, il faut clairement que l'engagement de l'État soit à la hauteur. Ne nous mette pas en situation de dépendance par rapport à des acteurs qui n'ont pas le pouvoir régalien en termes de formation.
Oui, effectivement, mon propos n'était pas assez nuancé, mais effectivement, en plus, il faut rappeler qu'il y a un grand nombre de compétences et de connaissances qui sont détenues par le secteur économique. Donc, il faut avoir appel. Nous, on travaille beaucoup au shift sur les questions d'approvisionnement pétrolier. Aujourd'hui, les connaissances et les compétences sur ces domaines, elles viennent essentiellement de l'industrie. Et c'est très difficile de s'appuyer juste sur la recherche publique et les enseignants-chercheurs publics sur ces sujets-là. Donc, il y a effectivement ça. Et il y a la manière de négocier ces partenariats avec le privé qui sont aussi très déterminantes. Et ce qui avait fait beaucoup de débats, notamment à PSL, c'est qu'il y avait un certain nombre de formalités, de modalités dans le contrat de partenariat qui posaient problème aux enseignants-chercheurs, ce qui n'est pas le cas de tous les partenariats qui sont noués entre le public et le privé. Donc je pense qu'il y a vraiment une manière de faire, comme dit Philippe.
Alors avant de nous quitter, parce que je vois qu'il n'y a plus forcément, en tout cas, de questions qui remontent vers moi, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? On a bien senti, hein, quand même, même les réactions du public, qu'il y avait ce besoin de savoir où aller, même pour se former, ou alors se mettre peut-être en immersion pendant un moment. Alors, moi, je pensais au rôle du campus de la transition, initié donc par Cécile Renoir, hein, qui à la fois donc économiste, philosophe, professeur à l'ESSEC et dans d'autres écoles, je crois, c'est au domaine des forges en Seine-et-Marne. Est-ce qu'il y a sachant que dans cette période de Covid, les lieux doivent être fermés, hein, bien sûr, mais est-ce qu'il y a peut-être des conseils spécifiques, ou alors en mot de la fin, vous voudriez ajouter quelque chose?
Alors moi, si je devais juste ajouter quelque chose, c'est que en fait, il y a de l'offre d'abord. Enfin, on peut parler du manque d'offres, donc si on peut parler de l'offre qui existe, et que ce soit au niveau des étudiants en cours de formation, ils peuvent compléter leur offre par des supports qui existent, qui sont en ligne, qui sont délivrés par les plus gros centres de recherche et d'enseignement sur les questions en lien avec l'environnement. Il y a des centres de formation professionnelle qui ont des offres vraiment liées à ces questions de transition énergétique, de développement durable. Il y a effectivement le campus de la transition. Il y a les moyens de s'immerger et de se donner les moyens de se former. Ce qui est plus difficile, c'est effectivement de trouver un endroit où on a accès à cette information. Mais en tout cas, moi, il est clair que je ne peux qu'encourager nos auditeurs, et peut-être téléspectateurs, je ne sais pas exactement où on est filmé, quand on est filmé, enfin voilà, mais en tout cas, à se former. Les moyens existent.
Émence.
Oui, je pense qu'effectivement, moi, mon conseil, c'est de ne pas rester seul et de, quand on se pose ce genre de questions, en tout cas, de ne pas cogiter tout seul, parce qu'il y a déjà beaucoup de réflexions qui ont été menées. Il y a beaucoup de ressources. Là, vous parliez, donc on a entendu Ingénieurs sans frontières. Il y a beaucoup de groupes, d'associations qui portent déjà ces réflexions et qui permettent de les mener à plusieurs. Nous, au Shift, on a nos bénévoles et shifters qui ont permis beaucoup ça, simplement de cogiter à plusieurs. Pour se former, il y a aussi les ressources de l'UVED qui sont intéressantes, qui est une plateforme qui met à disposition des MOOC et autres supports pédagogiques sur les questions de développement durable. Nous, au Shift, plutôt sur les aspects enseignement, on est en train de on ne va pas tarder à diffuser une plateforme enseignerleclimat.org qui permettra aux enseignants de se mettre eux-mêmes en relation les uns avec les autres pour se former chacun dans sa discipline et qui permettra de répondre à un certain nombre de demandes aussi. Voilà, mais je pense que l'idée, c'est de ne pas rester dans l'inaction, de chercher à être à plusieurs sur ces sujets-là et aussi de chercher ce que chacun peut faire à son échelle. Encore une fois, il y a le secteur de la transition écologique et il y a le fait de chacun, dans son entreprise, dans sa filière, dans son sujet, de réfléchir à la résilience et à la décarbonation à son poste. Et ça, c'est, je pense, le plus gros combat à mener et qui concerne chacun.
Et j'imagine que, bien sûr, toutes les informations seront à retrouver sur le site de la BPI, tout ce que vous aurez conseillé et l'un et l'autre. Merci vraiment à tous les deux, Clémence Voreux, Philippe Drobinski. On vous rend à vos vies personnelles et à vos soirées. Et puis peut-être, en guise de conclusion, allez reprendre la phrase de Margaret Mead hein, que l'étudiant, justement, Clément Chouanne avait prononcée dans son discours à Centrale Nantes. Mais ça dit tellement, et ça rejoint ce que vous disiez, Clémence, sur « Ne restez pas seul », mais c'est… Cette phrase, n'oubliez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés peut changer le monde. Merci, merci à tous les deux et à bientôt. Merci.
Merci, bonne soirée.
Au revoir.
Au revoir.